Bonsoir, bonjour, bon matin et bienvenue à Histoire de s'en jaser. Cette semaine, Maïté et moi, au Tremblay-Fontaine, après s'être embarrés à l'extérieur de notre très bien aménagé studio, on reçoit Frédéric Lefebvre.
Bonjour.
Salut. Ça va?
Oui, vous? Ben pas toi et Maïté.
Maïté, elle a pas de micro en ce moment, elle peut pas te répondre.
Ça va très bien.
Je suis contente d'entendre
voix.
Ça.
C'est toi qui mute la voix.
Oui, c'est moi. Alors, j'ai le micro. Donc, Fred, ou Fred de pour les intimes. C'est une blague. Elle aime pas ça quand je l'appelle Fred de. Donc, bien entendu, pour le reste du podcast, je vais l'appeler Fred de. Question brise-glace pour commencer. Grosse question sérieuse.
Oui.
Puis on veut juste des réponses sérieuses. T'as pas hâte d'utiliser le mot Percy Jackson. En fait, c'est deux mots. Les deux mots autres. Harry Potter. Ou encore, quoi d'autre déjà? On veut juste une réponse poétique.
Il n'y a pas de risque.
D'accord. Pourquoi as-tu choisi d'étudier en histoire?
Ben, la vraie réponse sérieuse, c'est que au secondaire, j'ai pris un cours avec Monsieur Nadeau.
Hey, tu t'en rappelles, toi? Parce que tout le monde nous parle de prof, puis ils sont comme « Ah, oh, ce prof-là a changé ma vie! » Mais je ne me rappelle plus de son nom.
Ben, moi, je me rappelle de lui. Très je ne me rappelle pas de son prénom. C'était un député politique.
Oh.
Très cool. Et j'ai eu mon premier cours d'histoire avec lui. Très le fun. Et là, mais c'était pas le moment décisif. Là, j'ai fait un bac en criminaux. Puis pendant mon bac, j'ai pris plein de cours d'histoire. Puis je me suis dit, ben finalement, l'histoire, je pense que j'aime ça. Et là, j'ai un vrai shout-out à faire à M. François Lalonde, meilleur prof d'histoire que j'ai jamais eu. Puis c'est lui qui m'a donné le goût de poursuivre mes études en histoire.
Wow! Magnifique.
Puis, c'est quoi ta spécialisation? Qu'est-ce qu'il enseignait, François Lalonde?
Pis... il enseignait l'histoire américaine. Donc, j'ai maintenant poursuivi en histoire américaine. Mais là, je fais moitié-moitié. Donc, je suis en histoire américaine et histoire québécoise. Je fais de l'histoire comparée maintenant.
Et dans le fond, le sujet, ben, en fait, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, ça...
Ça fait exactement moitié histoire américaine, moitié histoire québécoise. Donc,
aussi un peu ce que tu vas faire à la maîtrise, mais en version plus petite.
Oui, exactement, parce que j'avais un autre sujet de maîtrise avant. Et là, quand j'ai fait ce séminaire-là, je me suis dit, finalement, je pense que c'est ça que je veux faire. Donc, c'est ça, je peux introduire mon sujet?
Ben, introduis, comme tu veux.
Donc, c'est ça, j'ai fait mon projet sur une comparaison entre l'enquête Caron, qui est une enquête québécoise sur le service de police de Montréal. Et l'enquête, ben, la commission Keith Hover, le vrai nom, c'est le Senate Special Committee on Interstate Commerce.
Il est spécial comme comité.
Oui.
Excusez-moi, on a peut-être échappé une petite canette de bière ici. Inquiétez-vous pas, ça va pas être comme le podcast qui est sorti la semaine d'avant avec...
Ou qui va sortir dans trois semaines. On sait pas trop l'ordre dans lequel on sort les balados, mais le balado où on parle de hip-hop à Paris et où on a bu plusieurs... Pas plusieurs, là, franchement, mais un peu de vin.
Un peu. Mais moi, je voulais juste faire une intervention. Comment tu l'as dit? Tu as dit Keith Hover?
Keith Hover.
Moi, je le lisais mal. Je disais que Fauvé.
Non, son nom, c'est Estes Keith Hover. C'est tout qu'un nom.
OK. Bon, ben, pour les prochaines questions.
Mais la personne s'appelle quand même Esti. Puis ça, son prénom, c'est Esti.
Estes. Faut pas t'oublier le petit C'est ça qui change
en
tout.
En français, on met pas de... On prononce pas les S.
Moi, ben, je vais l'appeler Esti que Fauvé. Esti que Fauvé.
Ben, tu peux l'appeler comme ça si tu le désires.
C'est ça que je désire ce soir.
Mais oui. Donc, tu viens nous parler de... comparer, en fait, l'enquête Caron et... la commission Keith Hover, c'est ça?
Exactement. Donc, moi, mon séminaire, c'était vraiment centré sur la violence. Donc, c'est sous cet angle-là que j'ai analysé les deux enquêtes. Donc, je voulais voir à quel point la moralité influençait la représentation de la violence dans chacune des enquêtes. Mais pour ma maîtrise, je le fais un peu plus large. Donc, je fais juste à quel point la moralité influence... chacune des enquêtes, leur déroulement, la façon dont ils traitent des activités illégales et leur conclusion.
Puis là, tu disais qu'en fait, tu analysais l'enquête Coran puis le comité qui favore sous l'angle de la violence.
Oui.
Donc, c'est pas sans rappeler le balado avec Hugo Saint-Laurent qu'on a eu. En fait, c'est dans le même séminaire. Donc, on va te poser un peu la même question qu'on avait posée à Hugo aussi. C'est quoi la violence? Question large, avec plusieurs définitions.
Oui, bien la violence, justement, on a vu dans ce séminaire-là que c'est un concept assez difficile à définir. Mais pour cette recherche-là, j'ai employé deux différentes définitions de la violence. La première, c'est une définition beaucoup plus traditionnelle, si on veut, de la violence. C'est une définition qui surprend personne. Puis moi, je l'appelle dans ma recherche que c'est la violence physique et visible. Et elle va comme suit. C'est un abus de force ou de pouvoir qui vient faire effraction dans l'intégrité physique ou psychique de l'autre. Donc ça, c'est la définition la plus universelle. Et là, la deuxième définition que j'utilise, la violence, est un peu plus complexe. Donc, j'ai utilisé des définitions de la violence étatique et de la répression.
Oh!
De la répression étatique. Donc, je les ai combinées ensemble pour faire une définition, justement, qui convient à mon objet d'étude. Donc, j'ai établi quatre différentes caractéristiques qu'il faut qu'ils soient là. Donc, premièrement, la violence étatique est exercée par un État envers sa population par l'intermédiaire de ses organes judiciaires et pénaux. Donc, c'est pas... faut que ce soit quelqu'un qui le fait dans le cadre de ses fonctions. Donc, c'est pas juste comme si...
Jean-Guy sur le coin de la rue
exactement.
À côté d'un stop.
Exactement. Parfait. Très bon exemple.
Merci.
Pauvre petit Jean-Guy.
On sait pas, peut-être que Jean-Guy y est bien à faire
de la violence.
De la violence à un stop.
T'as bien raison. La deuxième caractéristique, c'est que son objectif, donc la violence commise par l'État, c'est de réprimer certains comportements nuisibles, qui sont nuisibles pour le gouvernement ou pour ses valeurs, à l'aide de sanctions physiques ou la menace de l'imposition de celles-ci. Et moi, dans ma recherche, je considère aussi les sanctions économiques et la menace de l'imposition de sanctions économiques comme étant de la violence également, donc des amendes. Je le considère comme la violence statique. Troisième caractéristique, c'est qu'il doit avoir un rapport de dominant-dominé. Donc, dans ce cas-là, l'État, c'est le dominant et le dominé, c'est le citoyen. Et finalement, il faut que ça soit une violence qui est légitime et légale parce que c'est exécuté par l'État. Donc, comme je viens de dire, mais ça ne peut pas non plus, par exemple, être un policier qui tue quelqu'un à l'extérieur de ses fonctions. Ça, je ne le considère pas comme ça parce que mais ce n'est pas une violence étatique. Donc, mais si c'est un policier qui fait une descente, ben là, ça compte comme de la violence étatique. Si c'est un emprisonnement, même chose. Donc, il faut vraiment que ça soit fait dans le cadre des fonctions de l'agent de l'État.
Cette introduction me fait poser une question par rapport à quand tu as parlé de violence physique étatique. Puis là, je pense immédiatement un peu aux punitions d'exemples qu'il y avait surtout durant l'Ancien Régime. Là. Par exemple, pendre quelqu'un puis exposer le corps. Ou vraiment tous ces exemples-là. Au 20e siècle, je suppose que cette violence physique étatique-là, c'est pas pendre quelqu'un puis l'exposer, mettons, sur René Lévesque.
Non.
Mais est-ce qu'il y avait quand même de la violence étatique physique?
Bien, ça dépend ce qu'on entend par violence étatique physique. Dans mon cas, dans le cas de mon travail, je considère, par exemple, l'emprisonnement. Moi, je considère ça comme de la violence étatique physique parce que c'est de la privation de la liberté. Donc, ça reste que c'est une peine. Je comprends que ça brime pas nécessairement la personne directement dans son intégrité physique en voulant dire que comme ça la blesse pas. Mais en même temps, te faire emprisonner, ça te brime quand même beaucoup dans ta vie, là, dans ta personne. Même chose pour des arrestations. Il y en a toujours qui peuvent être... Ça peut être fait dans le cadre des fonctions, mais ça peut être fait beaucoup plus ardemment.
Ça peut plus brasser d'un
fois. C'est ça, ça peut être fait violemment, mm-hmm. Puis c'est légal. Si t'as besoin de contenir quelqu'un, jusqu'à une certaine limite, il y a des gestes que tu peux poser, mais selon moi, ça reste la violence étatique, physique.
Ben un peu, ben comme tous les cas qu'on a vus. Puis là, je vais pas rentrer dans l'actualité, mais je veux dire, en ce moment, c'est quand même un sujet chaud de parler de violence policière puis des choses comme ça, ce qui relève aussi de la violence étatique comme tu l'interprètes dans ce travail.
C'est ça, exactement. Mais je veux pas trop glisser non plus dans la violence policière parce qu'il y en a, il y a des actions qui sont posées aussi qui devraient pas, comme c'est pas fait de façon... C'est vraiment à la limite du légal-illégal, selon moi.
C'est mais, pas by the book.
C'est ça. Moi, je veux pas glisser non plus là-dedans parce que, comme t'as dit, c'est vraiment... Comme c'est une grosse discussion, puis comme c'est... Puis je pense... Mon travail s'appuie pas nécessairement sur ça, puis vraiment que j'ai pas suffisamment de connaissances là-dedans pour m'avancer là-dedans. Donc, je me limite vraiment à les arrestations, les amendes, parce que c'est les sanctions économiques, les descentes policières, les emprisonnements. Vraiment, ce qui est vraiment... legit, comme on peut dire.
Super. Puis, en faisant ce travail-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui ont abordé l'analyse des violences dans les enquêtes que tu nous as présentées ou dans d'autres types d'enquêtes semblables?
Bien, c'est sûr que la violence est toujours abordée dans les études faites sur les deux enquêtes, parce que, bien, surtout sur l'enquête qui faut avoir, parce que l'enquête qui faut avoir se penche particulièrement sur les crimes organisés. Puis, on va probablement en reparler tantôt, mais l'objectif de l'enquête qu'il faut avoir, c'était de faire peur, en quelque sorte, au public et pour qu'il y ait peur du crime organisé. Donc, bien évidemment, eux, ils parlent beaucoup plus de la violence, ce qui fait que les études, quand ils en parlent, ils parlent aussi plus de la violence qui entoure le crime organisé, le mythe de la mafia. Mais ça reste que c'est jamais l'argument central. Donc, c'est jamais sous l'angle de la violence presque exclusivement. Puis c'est la même chose pour l'enquête Caron. Encore une fois, ça dépend ce qu'on considère comme la violence. Par exemple, il y a Daniel Lacasse qui a fait sa thèse de doctorat sur la prostitution féminine à Montréal de 1945 à 1970. C'est ça le titre de sa thèse. Et elle met l'accent sur la répression du travail du sexe. Donc, moi, je considère ça dans mon travail comme étant de la violence statique. Mais elle mentionne pas nécessairement que son travail porte exclusivement ou en très grande partie sur la violence. Donc, c'est souvent abordé, mais je vous dirais que c'est pas au centre des études qui sont déjà existantes sur les deux enquêtes.
Et donc, à ce moment-là, c'est quoi qui est plus étudié par rapport à ces deux enquêtes-là? C'est quoi un autre concept qui serait clé?
Bien, les enquêtes Caron... toutes les enquêtes Caron. Les études sur l'enquête Caron, excusez-moi. Celle-là, il y en a quelques-unes. C'est sûr que l'historiographie est beaucoup plus petite parce que ça reste que c'est une enquête québécoise. Mais par exemple, quelques grands historiens qui ont écrit sur comme les ouvrages importants sur ce sujet-là.
C'était particulièrement grand. Mesurait 6 pieds 2.
Exactement, même peut-être 6 pieds 5, si on veut aller dans le très, très grand.
Wow! C'est presque moi plus...
Fois 3.
C'est presque Alain Laberge.
Il est grand?
Hé! Alain Laberge, il est grand?
Je le connais pas. Je suis désolée.
Hé!
C'est un grand historien. Non, mais il a fait tout... Ben, c'est un professeur à l'Université Laval, mais il a fait tout plein de choses, là... C'est ça que je vois pas pourquoi tu te piquais. J'allais dire qu'il avait fait tout plein de choses. Il a beaucoup travaillé sur la Nouvelle-France, sur le Québec rural, l'évolution du régime seigneurial. En tout cas, mais il est très grand.
J'en doute même pas.
C'est lui qui a quand même participé à plusieurs recensions sur de nombreuses seigneuries. Il a vraiment, ses études sont clés pour étudier le régime seigneurial et sa persistance au Québec jusqu'au 20e siècle. Donc, on aime Alain Laberge, qui est un grand historien.
C'est très bon à savoir.
Mais parlons de d'autres grands historiens. Oui. Qui sont-ils?
Historiens et historiennes. Merci. Je vais commencer.
Merci.
Ça me fait plaisir. Je vais commencer. Il y a Mayali Brodeur qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Vice et corruption à Montréal », qui, elle, se focalise surtout sur les Jeux de hasard et de Paris.
Et la grandeur des gens.
OK, excuse-moi. Non. J'arrête. J'aime ça. J'aime ça faire rire Fred, mais...
Je ris pas.
OK. Ben, continue.
OK, donc ça, c'est surtout sur les Jeux de hasard et de Paris et les liens économiques, dans le fond, entre le crime organisé et la ville de Montréal. Donc, quels intérêts la ville de Montréal avait à tolérer le crime organisé ou à ne pas le tolérer par moment. il y a, désolée si je dis son nom tout croche, William Weintraub, on va le dire comme ça.
Non, mais dis-le vite dans ce temps-là.
William Weintraub.
Voilà.
C'était mieux comme ça, hein? Lui a fait un ouvrage sur City Unique, c'est comme ça que ça s'appelle. Et lui, c'est plus les diverses communautés dans Montréal, les dynamiques anglophones, francophones, les communautés qui sont un peu plus marginales. Il y a Mathieu Lapointe, lui, son ouvrage, pour vrai, c'est le, ben, c'est un peu subjectif, là, mais moi, je trouve qu'il est incroyable parce qu'il est vraiment très complet. Sur tout, sur les groupes politiques, lui, c'est vraiment, c'est ma bible quand je fais mon travail sur ça. Et pour ce qui est de Keith Hover, les ouvrages sont surtout sur l'importance médiatique des audiences. Donc, dans le fond, les audiences, c'était le premier gros phénomène qui a été télévisé en 1951 aux États-Unis. Et si je ne me trompe pas, la très grande majorité des téléviseurs aux États-Unis étaient ouverts à ce moment pour regarder les audiences. Donc, c'était vraiment...
Plus que l'audience de Johnny Depp et Amber Scholes?
Ben là, maintenant, on est en 2023, donc 2022. Sûrement. Donc, ben sûrement, c'était plus petit de beaucoup. Mais c'est peut-être comparable si on y va avec la proportion.
Si intéressant.
Très intéressant. Donc, c'est ça. C'est surtout sur le phénomène télévisuel. Il y a aussi l'ouvrage de William H. Moore, que ça, c'est l'ouvrage de Mathieu Lapointe, version Keith Hover. Donc, ça, c'est la Bible. C'est celui à avoir. Il est assez général aussi. Il couvre tout. Et le troisième sujet qui est vraiment beaucoup, beaucoup couvert dans l'historiographie, c'est le mythe de la mafia. Donc, dans le fond, il y en a beaucoup qui ont accusé la commission Keith Hover d'avoir fait plus ou moins une analyse, une vraie analyse, une vraie enquête du crime organisé, mais plutôt d'avoir joué un rôle dans la création du mythe de la mafia.
C'est quoi le mythe de la mafia exactement?
Mais c'est vraiment juste... Tu sais, la mafia, quand tu les vois dans les films avec le gros suit rayé, le petit chapeau, le puis parrain, le gros cigare, genre. Exactement, c'est la création de ça. Donc, le fait que la mafia, c'est un phénomène enfin, intercontinental, parce qu'il vient de l'Italie, puis c'est vraiment juste ça, comme c'est le phénomène vraiment stéréotypé de la mafia, puis c'est eux qui contrôlent tout dans le crime organisé, c'est ça qui ont participé à créer.
Il y a même la mafia dans Zootopia. Avez-vous vu? C'est des souris. C'est vraiment drôle. Puis... Non, mais vous avez pas vu?
Non, j'ai pas vu.
Mais j'ai vu Zootopia, mais je me souviens pas assez. Mais je me souviens que c'est l'histoire d'un policier, d'ailleurs.
Mais c'est une histoire d'un policier, mais c'est parce qu'à un moment donné... OK, puis après ça, j'arrête, là, mais les ours polaires, c'est des bodyguards, puis comme le parrain, c'est une souris. Bref, écoutez Zootopia. Excellent film.
Mais peut-être que c'est le comité Keith Hover qui a...
Ouais.
Participer à créer ce mythe-là qui a été repris par Zootopia.
Oui, il est pas dans le générique, tu sais, merci.
Mais basically, dans le fond,
oui.
Ce mythe-là, c'est un peu ayez peur des Italiens.
Oui, mais c'est surtout ayez peur de la mafia italienne, mais c'était vraiment très stéréotypé. Ça a été repris dans les films souvent après.
Ouais, ben le parrain, avec Zootopia.
C'est ça, avec très grande exagération
mais
aussi.
Mais j'imagine aussi que ça amène, parce que la mafia... et aussi japonaise, et etc. Fait que j'imagine que ça amène tout plein de différentes formes de racisme aussi, là.
Ouais, mais je suis pas allée très en profondeur, honnêtement, sur ce sujet-là. Mais si on y pense, quand on y pense dans l'imaginaire collectif, la mafia, on pense aux parrains.
Absolument.
On pense à la mafia italienne, souvent. Le gros cigare, le petit chapeau, le petit soute rayé, la canne, puis...
Ben, Al Capone, genre, aussi.
C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça.
Ouais. Al Capone était-tu dans ces années-là? Je sais pas, il est mort quand?
Je sais qu'il est mort
de la syphilis.
Non, je savais pas qu'il était mort de la syphilis.
Mais je suis allée à Alcatraz.
Ah?
Puis il y a comme...
Il y a une exposition sur la syphilis de Al Capone.
Non, mais il y a lui en statut de ça, mais il en parle du fait qu'il est sorti, puis... puis il est mort de la syphilis, ouais.
Ah, ben, j'ai appris
ça. Il était-tu grand? C'est un grand historien?
Non.
Il était petit. Il était un grandeur normal.
Il est décédé juste avant.
Okay.
L'enquête.
Mais il a probablement été un bon motif pour l'enquête Keith Hover, j'imagine.
Oui, oui, oui. Vraiment. Et puis
Chicago en général.
C'est ça. Puis j'ai oublié de le mentionner aussi, mais les deux enquêtes débutent en 1950. juste pour nous situer dans le temps. C'est ça, l'enquête okay. Caron a lieu de 50 à 53, puis l'enquête Kefauver de 50 à 51.
Puis le surnom d'Al Capone, c'était Snorky.
Il y avait aussi...
Al Brown, puis Albert Costa.
Poche.
Albert Costa, c'est poche, mais Snorky... Excellent.
Non, mais il s'appelait quand même Alphonse.
Snorky. Mais c'est sûr qu'il s'appelait pas Al.
Ben, ouais. Oui. Il s'appelle Al Capone.
Ouais, mais son vrai
Al,
prénom.
Al, c'est un surnom.
Je sais.
Moi, je m'appelle pas vraiment Fred. Je suis pas née Fred.
Mais il y a des gens qui sont nés avec des surnoms, par exemple.
Comme Rose. Ton vrai nom, c'est Rosalie.
Non, moi, mon nom, c'est Rose, mais... C'est pas important. Pourquoi c'est vrai que on
c'est
parle de ça?
Très peu important.
On va passer à la prochaine question. Puis, tu l'as pas vraiment abordé, mais t'as parlé de l'historiographie en général. Sauf que je sais que la moralité publique, c'est un concept qui revient énormément à travers tout ton travail. Puis, comme t'as défini la violence, je pense que c'est quand même une bonne chose que tu balises un peu ce qu'est la moralité publique.
Je pense que c'est une très bonne idée.
Merci.
Puis, c'est comme la violence. Dans le fond, c'est vraiment difficile à définir. Parce que pas tous les historiens ont la même définition de la moralité publique. En fait, il y en a qui vont jusqu'à inclure dans la question de la moralité publique le cinéma, le blasphème, les jours de congé le dimanche, la fraude. Donc, on s'entend que ça peut s'étendre de façon assez large. Mais pour ma recherche, j'ai utilisé la définition de Mathieu Lapointe. Dans le fond, en gros, la moralité publique, c'est faut que ça soit en public. Comme ça le dit, c'est que ça, dans le fond, ça l'élimine ce qui est immoralité, si on peut dire, dans l'espace domestique. Donc, ce que ça vise vraiment, c'est le vice commercialisé. Donc ça veut dire, par exemple, le travail du sexe, mais le travail du sexe qui se fait dans des maisons, des gens partant, qui se fait dans des maisons de prostitution, c'était comme ça que c'était appelé. Et même chose pour les jeux de hasard et le pari. Donc, c'est vraiment... Ce que ça vise, c'est les... Je sais pas si on peut appeler ça des institutions, mais c'est les commerces, en quelque sorte, qui sont établis. Donc, le travail du sexe, si on peut dire sporadique, tu sais, dans la rue, par exemple, c'est pas ça qui était nécessairement visé. Et encore moins dans l'espace public. Donc, s'il y avait des... Si tu faisais des choses immorales à la maison, t'avais quand même le droit de les faire. C'était pas ça qui était visé.
Okay. Encore moins dans l'espace privé, tu voulais dire. T'as oui. dit encore moins dans l'espace public.
Oh, je voulais dire dans l'espace privé, okay. Je suis désolée.
J'étais comme, je comprenais vraiment pas où tu t'en allais avec ça. Puis après ça, t'es comme dans la maison, puis j'étais genre... OK, ouais, mais effectivement dans la maison. Mais je sais que, ben j'avais parlé un peu de moralité aussi, mais j'avais, dans ce même séminaire, j'avais parlé plus du 19e siècle, moi, par exemple. Mais à ce moment-là, par exemple, Hugolin Lemay, qui était un moraliste, là, je serais formateur du 19e siècle, là, début tournant du 20e siècle. Il écrivait justement là, que la moralité, par contre, elle dépassait à ce moment-là le cadre public, puis qu'elle rentrait dans la vie privée, puis que, mettons, ben parce que les maris battaient leurs femmes, des mm-hmm. enfants de même, ben c'est ça. Fait que je pense que, justement, c'est ce que tu disais sur le concept de moralité publique, à quel point ça peut être élastique, justement.
Ouais, ouais exactement. Et aussi, eux, ils décident de ne pas s'embarquer dans la moralité, aussi dans l'espace domestique, parce qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront jamais éliminer l'immoralité, les actions immorales dans l'espace domestique. C'est impossible. Donc, ils se sont dit, ben, on va s'attaquer à ce qu'on risque réellement d'éliminer. Et aussi, il ne faut pas oublier que leur objectif primaire, ou un de leurs objectifs très importants, c'était d'éliminer la tolérance policière. Puis la tolérance policière, c'est surtout dans les espaces publics que ça se fait. Parce que sinon, les policiers sont très probablement pas au courant de ce que tu fais chez toi.
Puis, petite question surprise.
Oui.
Au 19e siècle, justement, les gens qui s'occupaient de faire respecter les lois, les militaires, les policiers de la police naissante, ils profitaient beaucoup de l'immoralité, mettons. Soit en allant dans les bars, en se torchant, basically, ou avec ben, des prostituées, peu importe. Là. Au 20e siècle, qu'en est-il?
Mais en fait, je vais être honnête, les études que j'ai consultées en parlent plus ou moins, et les sources, bien évidemment, en parlent très peu, parce que c'est pas ça leur objectif. Mais on s'entend qu'il y avait une très grande tolérance policière de toutes ces activités-là. Et ils devaient très probablement en profiter de quelconque façon que ce soit. Ils en profitaient, moi, c'est surtout sur le profit. Parce qu'en en tolérant, mais là, tu te faisais payer par la pègre, tu te faisais payer par certaines personnes qui voulaient que tu tolères leurs activités. C'est d'ailleurs comme ça que certaines personnes ont été très fortement soupçonnées d'avoir eu des liens avec le crime organisé, parce que c'était des policiers qui faisaient quelques milliers de dollars par année, en dessous de 10 000, puis il y avait une maison qui valait trois fois leur salaire, soudainement. Donc là, des tout petits pots de vin. Donc c'est surtout sur ça que moi que je me suis appuyée, les profits économiques, si on peut dire. Mais si on y va avec la logique, il devait avoir d'autres sortes de...
Mais si encore actuellement, on pourrait faire une enquête, je pense, ethnologique sur le 22e régiment qui sort sur Grande Allée, près de la citadelle, puis ça pourrait faire une étude de longue durée, là.
Mais en même temps,
c'est pas illégal.
Mais en même temps, c'est plus l'armée qui s'occupe non plus de faire respecter l'ordre. Ça serait plus une enquête sur le corps policier de la Ville de Québec et son affiliation avec les milieux moins légaux.
Ou illégaux.
Ou disons-le, illégaux. C'est ça. Disons-le fort. Mais
c'est parce que je voulais pas dire que la prostitution, c'était illégal ou des choses comme ça. Parce que ça aussi, tu vois, c'est un sujet chaud, le travail du sexe. Donc, c'est pour ça que j'ai dit moins légaux, parce que j'incluais la prostitution dans ce que je dis en général. Mais vous avez tranché. En tout cas, il y en a qui sont plus allumés que d'autres.
Puis c'est ça. Fait que c'est la moins allumée qui prend le micro.
On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Bon, on a parlé de moralité publique. Et maintenant, la question étant, qu'est-ce qu'une ville ouverte?
Donc, les villes ouvertes, je veux juste spécifier qu'on en parle parce que les deux commissions enquêtent sur le phénomène des villes ouvertes. Donc, l'enquête Caron, c'est sur Montréal. Et l'enquête Kefauver, c'est, si je ne me trompe pas, c'est sur 14 villes différentes. New York, Chicago, Kansas City, Miami, ça va dans tous les sens. Donc, une ville ouverte, même chose que les deux autres concepts qu'on a définis, il y a plusieurs définitions qui peuvent servir à décrire ce phénomène. Donc, moi, j'ai utilisé celle de, désolé pour le nom encore une fois, Adam Kaplowski. Je pense que c'était pas si pire que ça. Et lui, dans le fond, il définit une ville ouverte. Oh, il spécifie d'abord que ville ouverte, c'est un terme péjoratif. Donc, tu parles pas d'une ville ouverte en disant que c'est une super belle ville. C'est quelque chose de négatif quand tu dis que la ville est ouverte. Puis ça définit une ville, en fait, qui transforme ses caractéristiques ou activités immorales, bien évidemment entre guillemets, parce que c'est très subjectif si moral et immoral, mais ces activités qui sont immorales mais lucratives, donc qui rapportent de l'argent à la ville, en institutions bien établies dans la société. Donc, par exemple, le travail du sexe, c'est considéré comme étant une activité immorale, mais la ville de Montréal a vraiment... Elle a un red light district bien déterminé, bien défini, puis elle tolère parce que ça fait de l'argent. Donc, dans le fond, c'est où le vice commercialisé est toléré par la municipalité, tout simplement.
Puis, il y avait autant des villes ouvertes au Canada qu'aux États-Unis, si on regarde que les deux enquêtes étaient au Canada et aux États-Unis, mais est-ce qu'il y avait une concentration, par exemple, au Canada, à une telle place? Tu sais, je sais qu'il y avait Montréal, est-ce qu'il y en avait d'autres près ou c'était plus dans l'Ouest?
Je dirais que selon les enquêtes, il y en a plus aux États-Unis qu'au Canada. Parmi les villes qui ont été enquêtées par la commission Kefauver, il y a Miami, Kansas City, New York, Los Angeles, San Francisco et Chicago. J'ai fait un peu un mélange avec mes accents anglophones et francophones.
C'est ça, la franco-ontarie, comme ils disent.
Oui, madame. Et au Canada, il y en a aussi eu, quoique quand même beaucoup moins. Il y a eu, bien évidemment, l'enquête à Montréal, qui n'est pas la première enquête qu'il y a eu, en fait, sur ce même sujet. Il y en a eu une à Windsor, en Ontario, et il y en a eu aussi à Vancouver. Il y en a possiblement eu d'autres plus petites, mais si je comprends bien, c'est celle vraiment qu'il y a eu qui était plus importante. Donc, les villes ouvertes, oui, il y en a beaucoup. Il y en a au Canada, puis Montréal, dans le fond, c'est devenu une ville ouverte pendant la Prohibition aux États-Unis, qui a duré de 1920 à 1933. Il y a eu un tourisme qui s'est développé à Montréal, parce que Montréal était une ville « wet », comme on dit, où l'alcool était permis. Alors qu'aux États-Unis, le pays au complet était considéré comme « dry », parce que l'alcool était prohibé partout au pays. Donc ça fait que les citoyens qui étaient tannés d'être restreints dans leurs activités allaient dans ces villes-là pour faire le party. C'était ça, c'était un tourisme pour adultes. Donc,
comme Gatineau, dans le fond.
Exactement. Ben, il y avait Hull.
Hull, c'est une wet city?
Ben, Hull, c'était le petit Chicago.
Oh.
Il y a aussi eu une enquête sur le même sujet à Hull aussi, j'ai oublié de le mentionner.
C'était Wild à Hull.
Oui, oui, c'était... Ben, Al Capone, justement, si je me trompe pas, mais il allait régulièrement à Hull. C'était...
J'ai juste pensé... Ça n'a aucun rapport, mais j'ai pensé aux vidéos de Tom Cruise qui dit « I lived in Hull
». Oui, c'est vrai.
Puis je me suis juste imaginé Al Capone dire « I lived in Hull ».
Mais je veux juste spécifier que finalement, Tom Cruise, c'est pas vrai qu'il a vécu à Hull. Il a vécu à Ottawa, si je me trompe pas, parce que son père a déménagé là quand il était jeune.
Al Capone a pogné sa syphilis à Hull.
C'est possible, faudrait lui demander.
Ouais, faudrait.
Ben, il peut l'avoir pris, attrapé n'importe où. Là. C'était quand même un monsieur qui se prit. Il a pris. Il peut l'avoir attrapé n'importe où. On va pas blâmer les pauvres Hullois.
Je dirais Hullois. C'est la pataterie hulloise.
Ben, c'est ça. Fait que j'ai dit Hullois.
Je m'excuse, Rose. T'avais bien raison.
Bon, mais là...
C'est ça. Donc, la Prohibition, en fait, a créé des villes ouvertes. Et Montréal était l'une d'elles. Mais Montréal était spéciale par rapport aux autres villes ouvertes parce qu'elle avait un red light district qui était toléré. Ce qui lui a valu le nom de Paris of North America parce qu'elle prenait le modèle européen de tolérer le travail du sexe au lieu de le contenir dans un certain périmètre qui
comme
était...
Montmartre, mettons, à Paris. Qui était, c'est là où il y a le Moulin Rouge, entre autres.
Oui.
Puis, à Amsterdam, il y a le Red Light District aussi.
Exactement.
C'est plus connu que Montmartre, je peux constater.
Une question.
Oui.
Pourquoi Red Light District? C'est parce qu'il y a des Red Light?
En fait, ça, j'ai aucunement la réponse à te donner. Je suis vraiment désolée.
Mais moi non plus, mais je...
Mais je suis désolée. J'ai aucune idée.
Mais ça aussi, je pense que on en a parlé dans un balado précédemment, mais Harold Bérubé, dans son livre sur les villes, il parle de pourquoi ça s'appelle un red light. Mais je pourrais aller voir, puis je mettrai en annexe, à moins que tu trouves rapidement, là, mais sinon je mettrai en annexe pour les auditeurs.
Mais pendant que Maïté le cherche, je peux, pour les curieux, vous dire c'était quoi les délimitations du Red Light District à Montréal.
Oui, vas-y.
Donc, c'était la rue Saint-Laurent à l'ouest, si on fait un petit quadrilatère. Là. Donc, rue Saint-Laurent à l'ouest, Sherbrooke au nord, Saint-Denis à l'est et Saint-Antoine au sud, qui s'appelait à ce moment-là Craig. Donc,
mais
ça, c'était le quadrilatère.
C'est fou parce qu'on a reçu dans les dernières semaines Marie-Ève Boulay, puis elle nous a parlé justement de la communauté des Sœurs du Bon Pasteur d'Angers à Montréal. Puis était sur la rue Sherbrooke, justement. Puis les sœurs, elles s'occupaient des filles mères.
C'est ça.
Puis des délinquantes.
Exactement. Donc, ça, on voit que c'est vraiment un milieu où il y avait un besoin de
répondre à...
Exactement. Ben, répondre à un
Marie-Ève
certain besoin.
Marie-Ève parlait plus du 19e siècle, mais c'est tout en continuité, là, tout ça. Ça s'installe au 19e siècle et ça s'est poursuivi au 20e, là, finalement.
Exactement. Puis... Si je peux continuer sur les villes ouvertes, parce que c'est ça, Montréal tolérait un Red Light District dans un certain périmètre. Mais je veux juste souligner que les États-Unis, c'est pas qu'il y avait plus de travail du sexe une fois que c'était réprimé. C'est juste que c'était plus fait de façon minimalement sécuritaire. Avant, il y avait une certaine protection dans les maisons de prostitution avec les tenancières. Mais là, ça se fait dans la rue. Donc, il était non seulement plus en proie aux attaques de certains jeunes hommes ou monsieur qui profitaient des services, mais aussi de la police, parce qu'il était plus à la vue de tous. Donc, c'est ça. Il faut pas oublier que c'est pas parce que tu réprimes un comportement qui disparaît.
Puis dans ces villes ouvertes-là, est-ce que le taux criminel était plus haut ou plus bas? Puis là, je vais peut-être me rapporter à l'exemple de Hull, qui était peut-être plus près, par exemple, des camps de bûcherons, des villes plus frontières-là. Tu sais, est-ce que c'est une ville? Fait que techniquement, il y a de la police, donc un contrôle plus présent. Mais est-ce qu'on voit quand même une présence de crimes plus élevés que, par exemple, en campagne ou qu'il n'y avait pas de police? Je ne sais pas si tu comprends que je m'en vais avec tout ça, mon blabla.
Oui,
mais
oui, oui,
je comprends. Peux-tu répondre à mon blabla, s'il vous plaît?
Oui, bien, justement, moi, je vais répondre qu'il faut faire attention au taux de criminalité.
Okay.
Parce que le taux de criminalité, et là, c'est mon petit background en criminaux qui va ressortir, mais le taux de criminalité, ce n'est pas représentatif de... On va considérer que les crimes, c'est une transgression aux normes. Aux normes, aux pénales, bien évidemment. Donc, je vais inclure, même si ce qui n'est plus un crime maintenant, ou ce qui n'est pas considéré un crime par tous, on va le considérer comme un crime dans cette situation. Donc, le taux de criminalité représente juste la portion des crimes qui est enregistrée et qui est répertoriée par la police. Ce qui fait qu'il y a un grand nombre de crimes qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont ni enregistrés ni répertoriés. Ça, on appelle ça le chiffre noir. Donc ça, c'est les crimes qui ont lieu. Bien évidemment, on sait que pas tous les crimes sont enregistrés, pas tous les crimes sont répertoriés, mais qu'on ne sait pas vraiment, tu sais, il ne se passe rien. Admettons, tu voles un paquet de gomme dans un dépanneur puis tu ne te fais pas pogner. Personne ne le sait. Tu ne fais pas plus un sur le taux de criminalité. C'est vrai. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a aussi des crimes qui sont enregistrés comme étant un crime, mais qui ne le sont pas réellement. Et ça, on a un exemple assez bien expliqué. Si je ne me souviens pas, c'est dans l'ouvrage de Woody Wiss, de son nom de famille. Lui, dans le fond, il explique qu'il y a eu une enquête aux États-Unis qui portait sur la même chose, début des années 30. Puis ce qu'il a découvert, c'est qu'il y avait un très important réseau de corruption au sein non seulement de la police, mais aussi de la cour municipale. Ce qui faisait que les femmes étaient accusées de prostitution, alors qu'ils ont dit, par exemple, que c'était des femmes qui étaient des infirmières. Et là, le policier lui donnait de l'argent, puis il disait, par exemple, comme il lui donnait de l'argent en échange de services. Et dès que la femme prenait l'argent, même si elle acceptait pas de faire des services parce que c'était une infirmière ou une femme n'importe où, le policier la chargeait et l'accusait de prostitution. Ensuite, elle devait payer une somme d'argent très élevée pour pouvoir se faire libérer en attendant son procès. Et pendant ce temps, il réussissait à la convaincre de prendre $1 avocat qui était compétent et qui était aussi très cher pour la représenter en cour et pour la défendre. Ce qui faisait que toutes ces personnes-là, c'était un réseau de personnes qui travaillaient ensemble à faire de l'argent rapide. Donc, par exemple, ces cas-là, ces femmes-là, si ça a été répertorié, ça a été enregistré. Donc, sur le taux de criminalité, ça fait que ces femmes-là sont des criminelles, mais elles ne sont pas nécessairement. Ce qui fait que le taux de criminalité peut être très trompeur, parce qu'il y en a qui sont considérés comme des criminels alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a qui ne sont pas enregistrés alors qu'il y a eu des crimes. Et là, si on considère en plus qu'il y avait un réseau de tolérance policière très vaste, c'est difficile de... Le taux de criminalité risque d'être très peu représentatif de la réalité.
Intéressant. En fait, je ne savais même pas que c'était comme ça qu'on... Ben, en fait, j'avais jamais même pensé à comment calculer un taux de criminalité. Mais c'est un peu comme, on en avait parlé justement dans des séances de ce séminaire-là, mais comme le taux d'homicide, là,
mm-hmm.
qui au final, ben c'est pas tellement représentatif de réellement, genre, la violence dans une city. Dans une city. Je suis rendue où? Ouais, Jean-Leloup, mais c'est ce qu'on a parlé de Unique City ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est unique. Bref, je pensais à ça. Puis ça n'a aucun rapport.
Mais non, mais.
City, mais je pensais au taux d'homicide, qui justement n'est pas vraiment représentatif de la violence d'une ville, parce que je me souviens même plus pourquoi.
Mais c'est parce qu'en fait, il y avait certains historiens qui démontraient qu'il y a moins d'homicides maintenant, mais c'est pas nécessairement vrai, parce que c'est maintenant, ça. On a plus les capacités à soigner les victimes. Par exemple, tu te fais poignarder. Au début du 19e siècle, tu avais beaucoup moins de chances de survivre que maintenant. Alors, c'est pas nécessairement qu'il y a moins de
criminalité aujourd'hui.
De criminalité, c'est juste que tu as des meilleurs soins, donc tu as plus de chances de t'en sortir si tu te fais attaquer, alors qu'avant, tu avais plus de chances de mourir. Donc, le taux d'homicide, techniquement, a baissé, mais c'est pas nécessairement représentatif de la réalité.
Ouais, c'est ça. Fait qu'avec des données comme ça qui sont vraiment chiffrées, ben il faut faire vraiment attention, justement, à ce que ça, ça dit pour de vrai, là.
Puis ça reste des données du système de justice pénale. Donc, ça reste des données qui sont
influencées par, exactement. À la fois, ben, les gens qui sont dans le système de justice, les avocats, les juges et compagnie, mais aussi les policiers.
C'est ça. C'est plus ou moins objectif, si on peut le dire comme ça.
Ben, tant qu'on est des humains, c'est pas...
Non,
c'est
exactement.
C'est pas objectif. Puis d'ailleurs, parlant du comportement des policiers, là, t'as parlé de la tolérance policière déjà, mais est-ce que le comportement des policiers était dénoncé par les gens? Est-ce que, mettons, des policiers qui, justement, avec des réseaux comme ça pour arrêter des infirmières, ou, ben, ou mm-hmm. des femmes en général, là, ils ciblaient pas les infirmières, mais des femmes, ou bref, la violence, ou toutes ces affaires-là, est-ce que c'était dénoncé ou ça allait sous le tapis puis on n'en parlait plus?
C'était dénoncé. C'est difficile de savoir à quel... Ben, en fait, c'est beaucoup plus répertorié pour l'enquête Caron. Par exemple, il y avait Pacific Plante, aussi connu sous Pax Plante, qui était... C'est un ancien avocat. En fait, il était encore avocat, mais il était avocat à la Cour du Recordeur, qui est maintenant la Cour municipale. Et que lui, il est devenu directeur adjoint du service de police de Montréal, et il est devenu en charge de l'escouade de la moralité, qui est, ça le dit dans son nom, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est immoral. Et lui, en fait, ben, il a commencé un nettoyage de la ville de Montréal. Il a fait beaucoup, beaucoup de descentes, et des descentes qui étaient en quelque sorte efficaces. Donc, par exemple, avant... On n'arrêtait jamais le tenancier ou la tenancière de maison de jeu ou de maison de prostitution. Lui, il est arrivé et tout de suite, il arrêtait la personne en charge de l'établissement. Et bien évidemment, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Donc, il a perdu son emploi. Il s'est fait renvoyer pas si longtemps après ses débuts.
Ouais, je sais. Ben, excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais... Justement, au 19e siècle, par rapport aux tenancières et aux tenanciers de bordel, par exemple, mais c'est souvent que les policiers aussi faisaient un raid avant. Ils allaient comme clients, puis là, vous se rendez compte, surprise, surprise, que c'était effectivement un bordel. Fait que là, ils retournaient la soirée d'après, mais là, la soirée d'après, les tenanciers, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait eu des policiers dans l'établissement, donc ils s'attendaient. Donc, ils mettaient, mettons, les prostituées qui rapportaient le moins... Eux, ils n'étaient pas là, évidemment. Fait que les personnes qui se faisaient arrêter, c'est les petites nouvelles, les poches,
c'est
etc.
Ça.
Fait que là, j'imagine que si lui, Pacific Plante, il arrive, puis juste comme, il fait pas la première petite enquête avant, se faire connaître et tout ça, puis il fait juste rentrer, ça déplaît.
C'est exactement ça. Par exemple, il y a Harry Shipp, qui était comme un tenancier de maison de jeux de hasard et de Paris, qui était... C'était un criminel notoire. T'sais, il était très connu à Montréal. Il n'a jamais été arrêté avant. Mais il n'a jamais... c'était jamais suffisant pour que ça mette fin vraiment à son règne, par exemple. Et Pacific Plante y est arrivé. Et un mois après, si je ne me trompe pas, être entré en poste, il l'a arrêté. Donc ça l'a fait que... Ben, il y avait de la frustration. Non seulement dans le crime organisé, bien évidemment, personne ne trouve ça plaisant. mais chez la police aussi. Donc, la police l'ont renvoyé. Et il a commencé à faire une série d'articles qui s'appelle « Montréal sous le règne de la pègre », qui apparaissait dans le journal Le Devoir. Et il y a, si je ne me trompe pas, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'articles qu'il a écrits. Et lui, il dit qu'il a vu, il a pu voir tous les dessous de ce réseau de corruption parce qu'il a été avocat à la cour municipale et il a été directeur adjoint du service de police. Donc, il dénonce très fortement la tolérance policière. Donc, l'enquête Caron, c'est facile de voir. Il y a eu le comité de moralité publique, qui était un comité citoyen, mais des citoyens qui faisaient partie de d'autres organisations réformistes, en quelque sorte. Donc, il y avait vraiment un désir des citoyens ou d'une portion de citoyens de mettre fin à la tolérance policière. Puis on va le voir aussi parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes. Donc, puis les enquêtes avant n'ont pas fonctionné. Donc, c'est ça, on voit qu'il y a un groupe suffisamment important pour qu'il y ait des actions qui soient posées. Aux États-Unis, il y a aussi... c'est aussi dénoncé, mais c'est moins... c'est la même chose, il y a des groupes de citoyens qui sont organisés pour demander du changement, mais c'est un peu moins clair, ou peut-être que c'est moins décrit dans les études, à quel point ces groupes-là étaient importants.
Mais j'imagine aussi que, étant donné que le comité Kefauver, c'était à l'échelle nationale, bien, ça rentre moins dans les détails de c'est quoi le problème de chaque ville individuellement, alors que l'enquête Caron, elle était spécifiquement pour Montréal. Fait que ça parle spécifiquement des problèmes que Montréal possède.
Exactement. Puis le comité Kefauver aussi, son objectif était un petit peu différent. Dans le fond, lui, la commission, elle dit à plusieurs reprises dans son rapport que son objectif, c'est de réveiller la population. De réveiller la population face aux crimes organisés et à la tolérance policière. Ce qui laisse croire que la population n'était pas nécessairement suffisamment au courant, peut-être pour demander des changements comme Montréal le faisait.
Mm. Puis, mais ici aussi, j'ai l'impression que aux États-Unis, il y a comme un peu plus. Ben, c'est peut-être dans ma tête, mais tu sais, avec tous les trucs de prohibition puis des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus conservateur, justement, que Montréal était, ou qu'on l'est historiquement au Québec aussi, parce qu'on n'a pas vraiment vécu la prohibition ici. Puis j'ai l'impression que ça a sûrement impacté les différentes commissions. Là,
oui, mais à la fois, à la fin de la guerre, les États-Unis vivent un gros stress de perdre leur valeur. Donc... que l'ennemi, maintenant, c'est plus à l'extérieur. Maintenant que la guerre est finie, il faut se retourner vers nos concitoyens. Et on a peur de perdre nos valeurs. On a peur de tout ce qui dévie de la norme. Donc, c'est pour ça, en quelque sorte, qu'il y a un nettoyage de l'immoralité. C'est parce qu'on a peur pour la jeunesse, beaucoup. On s'inquiète des jeunes. En 1954, il y a eu un comité sur les bandes dessinées. Et j'ai écouté un très long témoignage d'un psychiatre qui se présente devant ce comité pour dire à quel point les bandes dessinées sont dangereuses pour les enfants, pour les jeunes. Et il dit que pas tous les jeunes qui lisent des bandes dessinées vont devenir déviants, mais que la très grande majorité qui lisent des bandes dessinées sont déviants.
Mon Dieu, moi qui ai lu les Nombris dans ma jeunesse.
Clairement. C'est pour ça que t'es comme ça.
C'est ça, exactement. Mais pour peut-être faire écho à ce que Rose a dit là, par rapport à qu'on a moins vécu la tempérance, si je me trompe pas, même à Québec, on a eu une sorte de tempérance partielle parce qu'il y avait ce qu'on appelait la bière de tempérance. Fait qu'en fait, même les petits bars de quartier allaient comme premièrement diminuer le pourcentage de l'alcool. Puis ils vont vraiment faire une bière de tempérance qui était encadrée par, justement, le service de la Ville de Québec, le service policier de la Ville de Québec. Puis vraiment, c'était pour faire un stop, justement, à l'exemple qui était Montréal. Parce que Montréal, c'était comme la pire exemple possible. Puis il fallait pas ressembler
à Montréal, d'après moi. Mais à Montréal, y a-tu des choses comme ça dans le nettoyage? Mais de ce que tu parles, c'est plus la prostitution et le jeu. Fait que ouais. L'alcool était pas visé?
En fait, l'alcool est aucunement visé par le rapport Caron. Dans le jugement, ça parle aucunement de l'alcool. Mais ça reste qu'on est quand même... Les États-Unis sont très près de nous, oui, physiquement, mais aussi on est facilement influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui fait que, Montréal, ça l'a fait en sorte que c'était une ville ouverte qui avait de la débauche, si on peut dire, des parties et tout ça.
Une vraie « wet city ».
Exactement. Mais c'était pas comme ça dans tout le Canada. Par exemple, Toronto, on l'appelait « Toronto the Pure ». Parce qu'à Toronto, c'était l'opposé exactement de Montréal. C'était ce qu'on voulait atteindre. À Toronto, c'était la pureté. On peut assumer qu'il n'y avait pas d'immoralité, entre guillemets, encore une fois. Donc, c'est ça, c'est pas... Montréal, c'est un cas particulier. On peut considérer aussi que c'est les influences européennes sur le Québec qui font qu'on gère un peu différemment du Canada anglais, peut-être. Mais... c'est ça. Mais on est influencé, mais Montréal, c'est particulier. C'était pas pareil partout au Canada parce qu'il y a beaucoup de provinces qui ont appliqué la prohibition aussi. Donc, c'est ça.
C'est vraiment intéressant. Ben là, on a comme fait un petit introduction, un entrée en matière sur la ville ouverte, sur le comportement policier, la situation Montréal versus États-Unis. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler plus en profondeur des enquêtes Caron et Kefauver. Parce qu'on l'a mentionné plusieurs fois, mais tu sais, les dates, leurs objectifs, voilà.
Oui, donc les deux enquêtes ont commencé en 1950 à seulement quelques mois de différence. Et les deux enquêtes, ils visent les mêmes points. Donc, ils enquêtent le crime organisé, la corruption policière et la moralité publique. C'est juste que ces points-là sont analysés à des niveaux différents, des degrés différents. L'enquête Caron met beaucoup plus l'accent sur la moralité publique et la tolérance policière, entre autres avec le travail du sexe et les jeux de hasard et de paris. Tandis que la commission Kefauver, elle, se focalise beaucoup plus sur le crime organisé, les jeux de hasard et de paris. Elle a fait seulement effleurer la prostitution, mais elle en parle très peu. Donc, l'enquête Caron a commencé le 11 septembre 1950 et les deux objectifs sont un peu différents. Donc, elle, son objectif, c'était d'enquêter sur une cinquantaine de policiers et cinq membres de l'administration publique montréalaise, soupçonnés d'avoir, et là, c'est ce qui est écrit dans le jugement, d'avoir commis des actes de malversation, d'abus de confiance et d'inconduite dont les buts et les effets étaient de tolérer, protéger et favoriser le vice organisé dans Montréal. Donc, c'est très clair ce que ça cherche à faire. Et l'enquête Caron, vu que c'est un juge qui préside cette commission d'enquête, elle peut, dans le fond, elle juge de la culpabilité des accusés.
Puis juste, le nom du juge, c'est Caron, j'imagine?
Oui, c'est François Caron, désolé. Ah.
Donc, merci.
Et bien évidemment, la commission Kefauver est présidée par le sénateur...
Esti Kefauver.
Exactement. Si bien dit. Et de son côté, la commission Kefauver commence le 3 mai 1950, donc juste quelques mois avant. Et son objectif est un peu plus large, un peu plus vague, c'est d'investiguer le interstate commerce, qui reste un terme assez très peu clair, si on est honnête. Mais c'est vraiment, c'est encore une fois ce mythe de la mafia, que la mafia est à la grandeur des États-Unis, puis que c'est un commerce illégal qui traverse d'État en État. Donc, d'analyser le interstate commerce et les membres de l'administration publique qui permettent à ce commerce-là de fonctionner à l'échelle nationale. La plus grande différence entre les deux, c'est que l'enquête Caron est au niveau municipal, alors que l'enquête Kefauver s'étend au niveau national. Mais c'est quand même pas trop compliqué de les comparer parce qu'il y a 14 villes qui sont touchées par cette enquête-là, et elle s'établit pour ses audiences dans chacune de ces villes-là. Donc, le rapport final, il est divisé par ville. Donc, ça reste que c'est quand même...
Le rapport de Keith Harvey.
Oui, oui, désolé. Oui, le rapport de la commission Keith Harvey est divisé par ces 14 villes-là. Donc, ça reste assez facile à comparer les unes avec les autres.
Mais au niveau judiciaire, bon, si je me rapporte à mes peu de connaissances sur la justice, le jury devait être différent. Ça l'a-tu impacté comme la grandeur ou l'importance du comité, tu penses, par rapport à la décision finale?
Mais je pense pas que c'est un jury.
Il n'y avait pas de jury?
Ben, je pense pas que c'est un jury. C'est un juge, puis la commission...
OK, il y avait
la commission Keith Harvey, c'est pas un juge.
Mais je pense qu'en général, mais quand c'est des trucs plus nationaux, là, contre la ville ou contre le... Ben, contre la ville, ce serait municipal, je pense pas qu'il y ait des jurys dans ce cas-là. C'est plus dans les... dans les trucs... Ben là, toi, tu penses à Johnny Depp et Amber Heard, hein?
Mais ça, je pensais plus à Legally Blonde.
Mais ça, c'est mais c'est des films, puis c'est aux États-Unis.
En tout cas...
Mais aux États-Unis...
le comité Keith Harvey aussi est aux États-Unis, mais ça, c'est civil, ces trucs-là, puis je pense.
Puis faut pas oublier, aux États-Unis, la commission Keith Harvey, c'est pas un procès. C'est pas... c'est là que je m'en allais. La commission Keith Harvey ne peut pas condamner, ne peut pas juger la culpabilité de personne. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est émettre des recommandations. Donc, ils n'ont aucun pouvoir judiciaire. Dans le fond,
fait que c'est pas comme l'enquête Caron qui enquêtait directement sur des policiers.
Exactement, parce que l'enquête Caron, à la fin, elle énumère chacun des accusés et dit s'il est coupable ou non, s'il y a des amendes à payer. Si ça a été beaucoup d'amendes à payer, par exemple. La ville de Montréal a dû payer aussi une partie des frais.
Y en a-t-il beaucoup qui ont été comme accusés?
Faudrait que... Oui, il y en a eu une cinquantaine d'accusés.
53. Oui, mais coupables, pardon.
Si je ne me trompe pas, c'est la majorité. Okay. C'est la très grande majorité. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont décédés aussi. Il y en a qui ont quitté les fonctions de la police. Mais il n'y a aucun... C'était tous des hauts gradés dans le service de police qui ont été reconnus coupables. Donc, ils ont considéré que si tu étais... Là, je ne connais pas les grades de la police, mais si tu étais au bas de l'échelle, mais tu n'étais pas nécessairement reconnu coupable.
Quand tu étais constable.
Exactement. Parce que souvent, tu suivais les ordres de ton supérieur.
De ton sergent.
Merci, Maïté, pour tes connaissances en police.
Ça fait plaisir. Mais, là, on parle un peu des différences entre les deux enquêtes. Est-ce que tu as vu une différence par rapport au type de violence qui était décrit?
Oui. Oui, en fait, les violences sont vraiment analysées de façon différente. Et pour ça, il faut que je dise c'est quoi les objectifs. J'en ai déjà parlé un peu, mais je vais juste les répéter parce que c'est ça vraiment qui influence de façon très importante la façon dont la violence est présentée. Donc, l'objectif de l'enquête Caron, c'est de nettoyer Montréal de l'immoralité et de la tolérance policière. Donc, son objectif est beaucoup plus moral. Ça tourne tout autour de la moralité et de la corruption policière. Et ça a été influencé aussi par des comités citoyens et la presse qui ont voulu un changement. Donc ça, c'est leur objectif, c'est vraiment nettoyer l'immoralité. Au contraire, la commission Keith Harvey, je l'ai déjà mentionné, mais leur objectif, c'est de réveiller le public. Et il dit très explicitement à la fin du rapport, c'est de réveiller le public face au danger du crime organisé pour qu'ils votent pour des dirigeants qui ne toléreront pas ce genre de comportement de tolérance policière. Donc, leur but, c'est de faire peur à la population, leur dire, regardez ce qui se passe quand on laisse le crime organisé ramper à travers nos rues, c'est qu'il y a des meurtres, il y a de la violence, vos enfants sont en danger. Donc, réveillez-vous et votez pour des dirigeants qui ne toléreront pas ça. Donc, déjà là, on voit les différences que le jugement, l'enquête Caron peut émettre des jugements de culpabilité. De dire, OK, toi, t'es condamné à une amende de, je sais pas, 500 $. Mais la commission Keith Harvey peut pas. Donc, c'est pour ça que leur seul point fort qu'ils peuvent faire, c'est de dire, voter pour d'autres dirigeants.
Donc, c'est vraiment politique, finalement.
C'est vraiment politique. Donc, bien évidemment, ils établissent des recommandations, la création de certains comités, des choses comme ça. Mais leur objectif, c'est vraiment, dans le fond, de réveiller la population. Ce qui fait que la violence est présentée de façon différente. Le comité, la commission qui favore, vu que son objectif, c'est de faire peur, la violence physique est visible, est beaucoup plus représentée. Ça parle de violence, ça parle de meurtre, ça parle de bombes, ça parle de à peu près de bombes.
Mais je comprends pas.
Ben il y a en anglais des bombings, bombardement ça fait un peu. Mais comme
il y a des gens qui tirent des bombes dans des quartiers.
Ben dans certaines maisons. De jeux de hasard, jeux de paris.
OK, c'est pas comme, mettons, des bombes placées stratégiquement, style, mettons, dans une boîte aux lettres près d'une cour municipale.
Ben, c'est, si je me trompe pas, c'est plus entre. C'est le même concept, okay. Mais entre différents gangs de.
Fait que tu mets organisé. Ça dans poubelle de la salle de jeu de l'autre.
C'est ça.
Pour bombarder.
C'est pour, comme pour, c'est pour éliminer la compétition. Donc, ça parle vraiment beaucoup de violence.
Ouais, ça, c'est très mafia aussi.
C'est très mafia, ça reste dans le mythe de la mafia. Il ne faut pas oublier que la commission Kefauver a été dénoncée pour peut-être pousser un peu ce mythe-là. Donc, faut considérer que le rapport est peut-être influencé un peu beaucoup, parce qu'il essaie de démontrer. Mais moi, ce que j'analyse surtout, c'est la violence étatique, qui est autant représentée dans l'une que l'autre, mais ce n'est pas considéré comme la violence. Donc, dans les deux enquêtes, ils parlent régulièrement de descentes policières, d'arrestations, d'emprisonnement, d'amendes, tout ça. Mais ils ne considèrent pas comme la violence parce qu'ils considèrent ces actions-là comme étant nécessaires à une société meilleure, une société nettoyée. Donc, ce n'est pas considéré comme la violence.
Évidemment, on n'a pas terminé de parler de ton travail qui se déploie sous encore divers aspects. Donc, on va en parler dans deux semaines pour les auditeurs, mais maintenant pour nous. Et on va pouvoir poursuivre justement sur poursuivre l'exposé sur le comité Kefauver et l'enquête Caron. Puis, on va pouvoir peut-être entrer un peu plus dans les détails sur l'impact, la moralité, sur la représentation de la violence dans ces documents-là. Mais on va aussi pouvoir parler du rapport inégal de pouvoir dans le concept de la violence, aller un peu plus en détail, puis un peu plus dans les exemples concrets dans deux semaines. Donc là, on a fait la partie vraiment méta, où est-ce qu'on parle de conceptualisation, de ces affaires-là. Et la semaine prochaine, ça va être plus le fun encore. Fred, un mot de la fin? Tu dire bye?
Ben oui, je vous dis merci de nous écouter, puis on se revoit la semaine prochaine. Dans deux semaines, je suis désolée.
Ouais, c'est correct, ça vient avec le temps. J'ai dit à la semaine prochaine pendant les 19 premiers épisodes, genre. C'est sûrement le 19e.
Moi, c'est mon premier, donc c'est
correct. Ça va venir avec le temps. Bon, bye la gang!